enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Derek Prince est reconnu comme un des enseignants de la Bible les plus renommés de notre époque. Il est l'auteur de plus de 30 livres traduits dans près de 50 langues.
Bonjour. Nous abordons aujourd'hui la dernière des 6 doctrines fondamentales exposées dans notre série d'enseignements « Poser la fondation ». Le point abordé aujourd'hui traite du jugement éternel. Derek Prince nous explique la différence entre les jugements historiques et les jugements éternels, ainsi que les principes du jugement de Dieu par la parole.
Quand on parle de jugement, il faut bien réaliser qu'il y a deux principales façons dont Dieu amène le jugement sur les personnes. La première, c'est le jugement sur l'histoire. La seconde est celui que nous allons aborder. Ce sont les jugements éternels. Ces jugements auxquels nous serons confrontés lorsque nous passerons de ce temps dans l'éternité. Il est important de bien distinguer ces deux types de jugements. Sans cela, nous risquons d'être un peu troublés par ce qui pourrait être considéré comme des passages polémiques. Le premier jugement de Dieu est dans l'histoire. Et il se traduit par des bénédictions ou des châtiments amenés sur des générations se succédant selon la façon dont la première génération a répondu à Dieu. Dans Exode, chapitre 20, versets 4 à 6, nous avons un exemple très clair des jugements historiques de Dieu. Exode, chapitre 20, versets 4 à 6, qui fait partie de ce qu'on appelle les 10 commandements. Dieu dit, « Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Nous voyons ici que le péché de l'idolâtrie, qui est le plus grand de tous les péchés, entraîne avec lui un jugement qui s'étend sur les 3 ou 4 générations suivantes. C'est un jugement dans l'histoire. Et il existe des exemples innombrables de la façon dont ces jugements se sont exercés dans l'histoire d'Israël et d'autres nations qui ont été impliquées dans l'idolâtrie. Puis dans Jérémie, chapitre 32, Jérémie traite également de cette question du jugement de Dieu dans l'histoire. Et dans une prière qu'il fit au Seigneur, Jérémie, chapitre 32, verset 18, il a dit, « Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Là aussi, Jérémie dit que Dieu fait payer les iniquités des pères sur les générations suivantes. Voilà encore un jugement dans l'histoire, dans le temps. Ceci s'applique également pour les bénédictions amenées sur les justes. Dans le psaume 103, David dit, au verset 17 et 18, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Il y a une promesse de bénédiction et de justice de la part de Dieu sur les enfants des enfants, sur les générations suivantes. Ainsi, la façon dont nous nous comportons et notre relation avec Dieu affecte non seulement nous-mêmes, mais cela touche probablement aussi les générations suivantes. Ceci est très significatif et très important. Il nous faut bien le garder à l'esprit. Nous devons répondre d'une certaine façon des bénédictions et des souffrances qu'auront eues les générations suivantes. Je crois que c'est un fait avéré par l'expérience. Par exemple, un enfant né de parents alcooliques commence dans la vie avec ce qu'ils appellent 2 handicaps. Ce n'est pas de sa faute, mais le jugement de Dieu sur ses parents va naturellement se reporter sur les générations suivantes. Bien, il faut dire ces choses, mais il faut également ajouter qu'il y a un autre jugement de Dieu, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle le jugement éternel, un jugement qui affecte notre destinée dans l'éternité. Et là, les principes du jugement sont complètement différents. Ils sont annoncés par Dieu à Ézéchiel au chapitre 18, versets 1 à 4. Chapitre 18, versets 1 à 4. Ézéchiel parle, il dit, « La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous de ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Vous voyez, cela signifie que les enfants souffrent des péchés de leurs pères. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pèche est celle qui mourra. » Ici, nous ne parlons pas de jugement historique, nous parlons du jugement de l'âme de chaque individu au moment où il passe de ce temps à l'éternité. En ce moment-là, chaque âme porte la responsabilité uniquement de la vie qu'elle a menée. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Et cela est répété à nouveau au verset 20. Là, Dieu est encore plus insistant. Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Ainsi, quand nous quittons ce temps pour entrer dans l'éternité, nous ne sommes plus jugés pour les péchés ou les bénédictions de nos parents, nos ancêtres. Nous devons répondre à Dieu personnellement, uniquement sur ce que nous avons fait dans la vie. La justice du juste sera sur lui. La méchanceté du méchant sera sur lui. Et il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, « Là où tombe l'arbre, là il restera couché. » La condition dans laquelle vous vous trouvez au moment de mourir détermine la condition qui sera la vôtre dans l'éternité. C'est cela le jugement éternel, un point à considérer de façon très très solennelle. Romains chapitre 2, verset 2, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » C'est le premier principe. Le jugement de Dieu se base sur des faits réels, pas sur des oui-dire. Je me souviens, quand le Seigneur voulait connaître la vérité au sujet de Sodome et Gomorre, il avait entendu des rapports terribles de la part des anges et d'autres. Mais vous vous souvenez qu'il dit à Abraham, « Je suis descendu pour voir par moi-même. » Voilà qui m'impressionne beaucoup. Dieu ne juge pas par oui-dire, il juge selon la vérité. Le deuxième principe du jugement est au verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Nous serons jugés selon ce que nous aurons fait. C'est un principe de base qui traverse toute la Bible et qui s'applique aux croyants comme aux non-croyants. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 7, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, Pierre explique ce principe en l'appliquant spécifiquement aux croyants. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, il parle aux croyants et il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » C'est le genre de message qui n'est pas propagé publiquement dans la plupart des églises aujourd'hui. Mais Pierre dit aux croyants, « Gardant l'esprit que vous serez jugés selon ce que vous aurez fait, vivez une vie pleine de respect et remplie de Dieu. » N'agissez pas à la légère, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas présomptueux, car vous aurez à rendre compte à Dieu un jour de tout ce que vous dites et faites. Et souvenez-vous, cela est adressé aux croyants, pas aux incroyants. Puis, dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12, il est dit que tous les gens qui étaient jugés au jugement dernier étaient jugés selon ce qui était écrit dans les livres. Dieu garde donc le récit de chaque vie. En revenant à Romains, chapitre 2, le principe suivant du jugement de Dieu est présenté au verset 3, Est-ce que j'ai dit verset 3? Non, pas le verset 3. Car le fait est que ça n'est pas traduit comme je voudrais. Oui, c'est Romains chapitre 2, verset 11. Je vais expliquer ce que je veux dire, d'une certaine façon. Ce que je veux dire très brièvement, il est dit, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Toutes les traductions modernes disent la même chose parce que c'est une phrase moderne. Quelquefois, je me pose la question, « Pouvez-vous vraiment traduire la Bible en langage moderne sans y mélanger une pensée moderne ?» Car le langage que tu utilises est vraiment un reflet de ce que tu penses. Vous voyez, dans la version King James, il est écrit « Il n'y a pas de respect de personne ». C'est beaucoup plus précis, car le mot « partialité » peut s'appliquer à n'importe qui. Vous pouvez avoir une petite personne faible, insignifiante, et être très partiel envers elle. Face à cette faiblesse, je veux l'aider, je veux vraiment faire le maximum pour elle. Mais le respect des personnes signifie que vous ne vous laissez pas impressionner par ce que la personne est en elle-même naturellement. Un homme peut être un général, un président, un évêque, mais ça ne lui donne pas le droit à un traitement particulier devant Dieu. Il est traité exactement comme tout le monde. C'est ce que cela signifie quand il est dit qu'il n'y a pas de respect de personne, particulièrement à l'attention des gens qui occupent des fonctions prééminentes dans le monde d'aujourd'hui. Très bien. Le principe suivant du jugement de Dieu, le quatrième, est selon la mesure de lumière. Et Paul dit, dans Romains, chapitre 2, verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Si vous avez la loi, vous serez jugés par elle. Si vous n'avez pas la loi, vous ne serez pas jugés par la loi, mais vous serez quand même jugés pour ce que vous avez fait. » Et ce principe est illustré par les paroles de Jésus dans Matthieu 11, quand il s'adresse aux principales villes de son temps qui ont refusé d'écouter sa parole. Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, un jour de jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi? Car Tyr et Sidon avaient moins de lumière. Bethsaïda et Chorazin avaient reçu une plus grande lumière et seraient jugés plus sévèrement. Vous et moi serons jugés selon la lumière dont nous avons disposé. Je voudrais dire que d'une façon générale, dans le monde anglo-saxon, il est mis à notre disposition aujourd'hui une plus grande mesure de lumière qu'à aucune autre génération précédente dans l'histoire. Nous avons des tonnes de Bibles, nous avons infiniment de livres, nous avons des cassettes audio et vidéo, nous avons des prédicateurs. Nous serons jugés à la lumière de ce que nous aurons reçu. Les critères du jugement de Dieu pour cette génération seront plus sévères car nous aurons eu plus de lumière. Jésus condamne dans le verset suivant, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Vous voyez, le jugement est selon la lumière. Plus vous recevez de lumière, plus sévère sera le jugement. » Et comme je l'ai dit précédemment, je le dis à chacun d'entre vous, ainsi qu'à moi-même, il n'y a probablement jamais eu une génération de chrétiens qui ait bénéficié d'une lumière comme celle dont nous disposons aujourd'hui. Gardez cela en mémoire. Ce sera la mesure de notre jugement. Et finalement, le cinquième principe du jugement de Dieu, dans Romains chapitre 2, verset 16, il est dit, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Ainsi, Dieu ne va seulement pas juger nos actes visibles, il jugera nos pensées les plus secrètes et nos motifs et nos attitudes. Je crois qu'il est juste de dire que Dieu attache une grande importance à nos motivations. Deux personnes peuvent réaliser le même ouvrage, mais leurs motifs peuvent être totalement différents. Et quand Dieu les jugera, il prendra en compte leur motivation. Nous allons poursuivre avec les étapes du jugement. Et comme je le comprends, il y aura quatre phases principales successives du jugement. La première aura lieu devant le trône du jugement de Christ. Le mot grec « bema » désigne la plateforme sur laquelle les dignitaires romains s'asseyaient pour rendre leur jugement. Ponce Pilate s'était assis sur son bema quand Jésus apparut devant lui pour être jugé. Ce jugement ne concernera que les chrétiens, que les croyants. Revenons à 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Je ressens que Dieu veut que je relise ce passage. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est écrit pour nous. Nous invoquons le Père. Et ensuite, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, il est dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?» Par où commence le jugement de Dieu? Toujours par la maison de Dieu. Toujours avec le peuple qui a la vérité. Et c'est pourquoi, quand commence le jugement, les premiers à être jugés seront les chrétiens. Ils auront un jugement spécial. Romains chapitre 14, versets 10 à 12, dit ceci. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous, les chrétiens, comparaîtrons tous devant le tribunal, Béma, de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et souvenez-vous qu'il n'y a qu'une seule personne au nom de laquelle vous devrez rendre compte, c'est vous-même. Vous n'aurez pas à rendre compte pour moi ou pour votre pasteur, et vous perdez beaucoup de temps à juger les autres, certains d'entre vous, au lieu de vous juger vous-même. La seule personne pour laquelle vous aurez des comptes à rendre, c'est vous-même. Et ça, vous devrez le faire. Donc Paul dit que chacun d'entre nous devra rendre compte pour lui-même à Dieu, c'est-à-dire chacun de nous, chrétiens. Et ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, il retourne au même thème. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut, nous chrétiens, tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il est dit que nous devons tous comparaître, mais le grec dit que nous devons tous être manifestés. Il n'y aura aucun secret. Tout sera entièrement exposé. Rien ne sera caché. Et nous serons devant le trône du jugement de Christ, et nous recevrons en fonction de la façon dont nous avons vécu dans notre corps. J'ai déjà souligné dans cette série, mais je vais le redire, qu'il n'y a que deux catégories, soit la bonne, soit la mauvaise. Il n'y a rien entre les deux. Tout ce qui n'est pas bon est mauvais. Jésus a dit très clairement, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'existe pas de zone neutre. Jésus a exclu la neutralité. Ce que nous devons dire, c'est qu'il y a cinq aspects de ce jugement. Je vais les passer brièvement en revue. Il est individuel. Chacun d'entre nous rendra compte pour lui-même. Il portera sur les choses faites dans notre corps, la façon dont nous avons vécu quand nous étions dans notre corps. Il n'y a que deux catégories, la bonne et la mauvaise. 1 Jean chapitre 5, verset 17 dit, « Toute iniquité est un péché. » Tout ce qui n'est pas juste est un péché. Cette idée s'est glissée dans la pensée des gens et en a trompé beaucoup. Il n'y a pas de neutralité. Le principe suivant est qu'il n'est pas fait pour condamner. Ceci est très très important. Nous serons jugés, mais nous ne serons pas condamnés si nous sommes d'authentiques croyants, des croyants sincères en Jésus. Le principe de ce jugement est l'évaluation de notre service. Laissez-moi vous donner trois versets qui vous rassureront sur ce point. Je vois que certains d'entre vous sont un peu inquiets, ce qui n'est pas une mauvaise chose, croyez-moi. Jean, chapitre 3, verset 18, Jésus dit, Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Si donc nous sommes de vrais croyants en Jésus, nous serons jugés, mais pas condamnés. Et puis ensuite, il dit à nouveau, dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et pour terminer, Romains chapitre 1, verset 8. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne sommes donc pas en train de parler d'un jugement de condamnation. Nous sommes en train de parler d'un jugement qui évalue le service que vous offrez à Jésus dans votre vie. L'endroit le plus clair où cela est décrit se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 et suivant. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 et suivant. Paul est en train de parler de construire l'Église. Et il dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et la version NIV dit « comme quelqu'un qui échappe aux flammes ». Voilà l'essence du jugement des chrétiens. D'abord, il faut construire sur le fondement de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondation. Ensuite, nous devons déterminer quelle est la valeur du service que nous avons offert. Les choses qui sont faciles à acquérir peuvent être offertes en grande quantité, du bois, du foin, du chaume, mais elles brûleront toutes. Les choses qui sont précieuses ne peuvent pas s'acquérir en grande quantité, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Certaines personnes évaluent seulement la quantité de leur service, mais ce n'est pas ainsi que Dieu l'évalue. Je m'examine continuellement. Qu'est-ce que je produis? Est-ce seulement du bois, du foin, du chaume, qui sera dévoré par le feu? Quelle tragédie quand vous avez travaillé toute votre vie pour quelque chose, vous l'avez tout bien entassé, et au jour du jugement, vous voyez le feu le balayer, le consumer entièrement. Il ne reste rien, et vous n'êtes plus qu'une âme nue, qui s'en tire comme quelqu'un qui s'échappe des flammes. Quelle pensée solennelle. Maintenant, je voudrais vous donner quelques suggestions pour savoir si votre service supportera le test des flammes. Je vous suggère trois moyens d'évaluer votre propre service. Tout d'abord, quelle est votre motivation? La seule motivation acceptable pour Dieu est la gloire de Dieu. Et beaucoup de ce qui est fait dans l'Église aujourd'hui est fait par des hommes pour leur propre gloire. Je le dis à titre personnel, et c'est une opinion personnelle. Je pense que le plus grand problème aujourd'hui est le service d'une ambition personnelle de la part des ministres de Dieu. La plus grande église, la plus grande liste de contacts, le plus de miracles, tout cela sera consumé, car ces motivations sont mauvaises. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, Paul dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il n'y a qu'une seule motivation acceptable pour le service, c'est la gloire de Dieu. Je sens que le Seigneur veut que je fasse une pause juste maintenant, de vous laisser une chance de considérer ce qui vous a motivé dans vos services, dans votre service pour lui. Vous voyez, Paul dit que vous devez être renouvelé dans votre esprit, dans Romains chapitre 12, verset 1. Je pense que la différence entre l'esprit renouvelé et l'esprit non renouvelé, c'est la chose suivante. L'esprit non renouvelé fait face à une situation, il se demande « qu'est-ce que je peux tirer de ça ?» L'esprit renouvelé dit « où Dieu en tirera-t-il de la gloire ?» C'est un changement radical de motivation. Je trouve que cela s'applique très bien au mariage. Je crois que beaucoup de mariages ne sont pas heureux, parce que les gens arrivent avec un esprit non renouvelé. L'attitude de chacun est « qu'est-ce que je vais en retirer ? Est-ce que ça me rendra heureux ?» C'est quasiment la recette pour un mariage raté. La bonne motivation, c'est « qu'est-ce que je peux donner ?» Pas « qu'est-ce que je peux retirer ?» Mais « qu'est-ce que je peux apporter ?» Et quand deux personnes se mettent ensemble avec comme idée en tête de s'apporter mutuellement quelque chose, ils obtiendront un mariage heureux et réussi. L'important est dans les motivations. Deuxièmement, si votre œuvre doit résister à l'épreuve du feu, elle doit avoir été faite en obéissance à la parole de Dieu. C'est le seul fondement acceptable. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus parle de deux types différents de personnes, celles qui construisent sur le sable et celles qui construisent sur le roc. Il dit à la fin, Matthieu chapitre 7, je suis dans Marc, c'est pour ça que j'ai un petit problème, mais j'arrive. Matthieu chapitre 7, verset 21 et suivant. Ce sont les mots de Jésus. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La seule motivation valable est donc de faire la volonté de Dieu le Père. Puis Jésus poursuit en disant quelque chose qui offense certains. Il dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'ai, par la grâce de Dieu, eu le privilège de chasser énormément de démons. J'ai vu se réaliser bon nombre de véritables miracles. J'ai souvent prophétisé. Je tiens à vous dire que mon expérience du ciel n'est fondée sur rien de tout cela. Et quiconque le fait court un grand danger. Il n'y a qu'une exigence essentielle pour les cieux, c'est de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Jésus dit à ces faiseurs de miracles, « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. »
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.